Maintenant, nous aurons le plaisir d'écouter Rainer Schlösser qui va nous faire une contribution sur l'accueil d'un souvenir de Solferino dans le monde germanophone. Rainer est le président de l'Association des musées de la Croix-Rouge en Allemagne. Vous avez le petit document à votre disposition dans la salle dehors. C'est un visiteur régulier de Genève, en tous les cas de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Et c'est avec plaisir qu'on va l'entendre aujourd'hui nous présenter l'accueil dans le monde germanophone. Rainer, vous avez la parole.
Merci de la gentille introduction, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, vous vous apercevez que la langue française n'est pas ma langue maternelle. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le temps de demander la révision linguistique, stylistique d'un collègue français. Donc, je vous prie de pardonner les fautes et je promets que la version imprimée sera plus parfaite. Donc, je vais parler sur l'accueil d'un souvenir de Solferino dans le monde germanophone. J'aimerais ajouter de l'origine jusqu'au présent, parce que dans le monde germanophone, le livre de Dunant ne cesse pas d'être accueilli. Je vais parler de quelques problèmes généraux qui se posent quand on s'occupe de l'accueil du souvenir. Je parlerai en quelques mots sur l'accueil du texte original et je parlerai en quelques mots sur les traductions allemandes. Concernant le début de la Croix-Rouge, internationale et nationale, et en particulier l'accueil du souvenir de Solferino pour l'espace germanophone, on peut constater que dans le présent, il y a peu d'études de caractère scientifique, c'est-à-dire élaborées par d'historiens de profession, chose qui semble changer dans les toutes dernières années. Pour le passé, on peut constater que les études d'auteurs bienveillants sont, d'un côté, plein de détails extrêmement précieux, mais d'autre côté, dans une partie considérable de ces ouvrages, les exigences scientifiques, ou plutôt philologiques, reculent derrière le but, parfois glorifiant. Il y a par exemple des citations de personnages difficiles à identifier, il y a des lacunes dans les indications de citations dont les sources restent introuvables. Une observation qui vaut même pour des ouvrages méritoires et estimés, comme par exemple ceux de Rudolf Müller ou de Willy Hoeglass. Cela est d'autant plus déplorable que les constatations faites dans ces ouvrages de base sont dénombrées d'une façon continue d'une contribution à l'autre. On peut donc être surpris que le destin qu'a pris un ouvrage comme le souvenir de Solferino, un ouvrage qui a exercé tant d'influence sur l'évolution du droit humanitaire et de l'humanisme, est aussi peu connu et a aussi peu inspiré d'historiens hors du sein de la Croix-Rouge. Bien entendu, dans l'espace germanophone. C'est différent peut-être dans l'espace francophone. Il n'y a toujours pas d'édition critique, en sens philologique, d'un des livres les plus influents du XIXe siècle. On ne connaît que les peu récipients les plus fameux, parmi lesquels Dunant a distribué les exemplaires de la première édition du souvenir. Les recherches que je viens de mentionner se basent en général toutes sur les notes et les mémoires d'Henri Dunant lui-même. Lui, il est fier de nommer les puissants personnages, les grands noms, les titres sonnants, qui soulignent l'importance de son livre. Mais on s'étonne qu'il n'y a guère de sources qui soient indépendantes des mémoires de Dunant. Des notes biographiques dans les mémoires des reines, des princes et princesses, des allusions dans les correspondances de ces nobles gens qui en grande partie sont parents passant par alliance, des notes officielles dans les archives des pays où Dunant a été accueilli comme invité officiel. Où peut-on soupçonner que telle source existe, bel et bien, et qu'il faut intensifier les recherches dans cette direction? S'il est comme ça, et je suis convaincu qu'il est comme ça, il faut féliciter les organisateurs de cette conférence qui donnera la vue d'ensemble de l'état de recherche, qui apportera nouvelles contributions de recherche et qui stimulera ultérieurs efforts de recherche. L'accueil du souvenir de Solferino en Allemagne et dans le monde germanophone peut être analysé en deux étapes. L'accueil du texte original et celui du texte traduit. Pour que le souvenir de Solferino soit accueilli par la noblesse allemande, il n'était naturellement pas nécessaire, comme dans toute l'Europe cultivée de l'époque, que le livre soit traduit. Laissons passer de revue quelques souverains régnants à l'époque dans les 25 royaumes, principautés, duchés, etc., qui quelques ans plus tard allaient composer l'Empire allemand. Ils figurent tous parmi ceux auxquels Dunant avait adressé un exemplaire de son livre. Ils documentent leur réaction dans ses mémoires et il est bien connu que ces personnages non seulement expriment leur gratitude, leur enthousiasme et leur soutien, mais qu'ils réagissent de manière très concrète. Les sociétés de secours aux blessés militaires et les associations des dames qui furent fondées dans leur pays comptaient ou comptent toujours parmi les plus anciennes sociétés au sein de la Croix-Rouge internationale. On connaît les conséquences immédiates. Il est sûrement dû à l'influence du souvenir et au voyage préalable du Dunant que 8 États germanophones ont envoyé leurs délégués à la conférence fondatrice de la Croix-Rouge en octobre 1863, Autriche, Bade, Bavière, Hanovre, Prusse, Saxe, Württemberg, Suisse, ce sont 8 sur 15 participants. L'année qui suit, 1864, ce sont 5 pays germanophones sur 12 participants qui signent la Convention de Genève. C'est donc au siège princier que Dunant avait rendu visite en personne pour expliquer ses projets développés dans le souvenir, où se sont créées les premières sociétés du nouveau mouvement. Parmi les soutiens les plus fervents de Dunant et de la Croix-Rouge compte sans doute la reine de Prusse et future impératrice d'Allemagne, Augusta, qui un jour trouva le souvenir sur une table dans son cabinet de travail sans savoir qui l'y a mis. Elle-même raconte l'anecdote à Dunant lors de la rencontre à Berlin en 1866. Elle convainquit son époux, le roi Guillaume Ier, de fonder déjà en février 1864 une société prussienne pour les blessés militaires et elle-même créa, pour ainsi dire en présence de Dunant qui séjournait à Berlin, en septembre 1866 le Vaterländische Frauenverein von Bruckenkreuz, l'association patriotique des Dames de la Croix-Rouge. Sa collègue, entre guillemets, en Württemberg, la reine Olga, après avoir reçu le souvenir, avait accueilli Dunant déjà deux fois quand elle adopte le patronage sur le Württembergische Sanitätsverein, dont nous allons célébrer son 150e anniversaire le 12 novembre 2013. Dunant fut nommé son président d'honneur en avril 1868. Et on le sait, c'est la première société nationale au monde. Jean, roi de Saxe, accueille l'auteur du Solferino à Dresde le 2 octobre. Il décrit l'impression qu'a laissé le souvenir sur lui avec la fameuse citation, citée d'après les mémoires de Dunant, « Je ferai ce que je pourrai, car certainement une nation qui ne se joindrait pas à cette œuvre d'humanité se mettrait au banc de l'opinion publique en Europe. » Cependant, la Saxe ne compte pas parmi les premiers à établir une société de la Croix-Rouge ni d'adhérer à la Convention de Genève, action qui ne se réalisera qu'en 1866. Le grand-duc d'Oldenbourg, Nicolas-Frédéric Pierre, et le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin, Frédéric-François II, eux aussi ont reçu et lu le souvenir de Solferino. Leurs états comptent, comme le Württemberg et la Prusse, parmi les premiers en Allemagne. Oldenbourg en janvier, Mecklembourg en octobre 1864. Un rôle particulier appartient au grand-duché de Bade et de Saxe-Weimar, qui aura fait grand plaisir à Dunant. En précisant son idée dans son souvenir, je cite, il écrit « Un appel de ce genre s'adresse aux dames comme aux hommes, à la grande princesse assise sur les marches d'un trône, comme à l'humble servante orpheline et dévouée, ou à la pauvre veuve isolée sur la terre et qui désire consacrer ses dernières forces au bien de son prochain. Il s'adresse au général ou au maréchal de camp, comme au philanthrope et à l'écrivain. C'est la grande-duchesse Maria Pavlovna, mère de la reine de Prusse, en Saxe-Weimar, et la grande-duchesse Louise, fille de la reine de Prusse, en Bade, qui ont créé des sociétés des dames qui se chargeaient de problèmes de guerre et de problèmes sociaux avant que la Croix-Rouge ne fût fondée. Après son établissement à Genève et après leur rencontre avec Dunant, les deux grandes-duchesses ont modifié leur société et les ont intégrées dans ce nouveau mouvement humanitaire. En général, les sociétés masculines précèdent les sociétés féminines, mais en Bade et en Saxe-Weimar, la primauté appartient aux dames. Concernant les traductions en allemand, il me semble qu'il y a trois traductions allemandes connues. La première est apparue en 1863 à Bâle, simultanément avec la traduction italienne, néerlandaise et en partie anglaise par Charles Dickens. Le traducteur me semble inconnu. Il n'y a que la note deutsche vom Verfasser autorisierte Ausgabe nach der dritten Auflage des Originals bearbeitet, donc troisième édition et la troisième édition identique à la deuxième. Le traducteur n'est donc pas mentionné. Il y a une deuxième édition avec le texte identique avec celui de la précédente qui est apparu en 1895 à Berne. Il y a une autre traduction allemande différente des deux précédentes de 1897 à Stuttgart qui se trouve dans le fameux livre de Rudolf Müller, Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genfer Konvention. Müller dit que c'est la traduction sur la base de la septième édition pas encore parue. Cette septième édition est après parue à Amsterdam en 1902, mais cette édition d'Amsterdam est imprimée à Stuttgart. Il y a une autre traduction, donc une autre édition de la traduction précédente, celui de Müller, donc identique à celle de Bâle et Berne. C'est la traduction, c'est l'édition de 1940 de Soler, Solothurn. Ce texte, lui aussi, est identique avec celui des précédentes, comme je disais, de 1895 et 1863, avec un orthographe modernisé. Et c'est cette réédition s'est produit vu au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une préface du chef médecin de la Croix-Rouge suisse. En 1942 est parue la traduction et c'est celle qui pour l'instant est la traduction canonisée pour l'espace germanophone. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette traduction est réimprimée et diffusée par la Croix-Rouge suisse, à l'exception d'une réimpression réalisée par la Croix-Rouge autrichienne en 1997. Ces mentions légales indiquent le copyright 1942, maison d'édition Atlantis, Zurich. Le traducteur en est un certain Richard Tümmel. Il sera intéressant, et ne pas sans surprise, de jeter un coup d'œil sur la genèse de la traduction et sur le traducteur. En 1930, l'historien et photographe Martin Hürlimann, originaire de Zurich, établit une maison d'édition, l'Atlantis Verlag, qui est spécialisée avant tout en livres d'enfants et de photographies. En 1936, la réussite des nazis bat son plein, la maison établit un deuxième bureau à Zurich. Au début de la Deuxième Guerre mondiale déjà, la centrale à Berlin fut détruite par un bombardement et un nouveau siège allemand, à côté de celui de Suisse à Zurich, fut construit à Fribourg. Richard Tümmel, né à Hambourg en 1893, était le fils d'un médecin de renommée. Il faisait ses études en architecture et, dans sa ville natale, devenait conseiller municipal de bâtiments. Quand il participait à organiser une exposition d'art moderne, on lui reprochait de patronner ce que les nazis appelaient art dégénéré et on le releva de ses fonctions. Sans poste à Hambourg et soupçonné par les nazis locaux, il déménageait à Berlin. Une prédilection particulière pour la profession d'écrivain le mit en contact avec Martin Hürlimann, à l'époque encore éditeur berlinois et non pas encore suisse. L'amitié entre les deux hommes était de grande importance pour la survie matérielle de Richard Tümmel. Hürlimann, l'éditeur, le chargeait de plusieurs projets de son entreprise. Entre autres, il traduisait des livres du français en allemand, par exemple les mémoires du compositeur russe-français-américain Igor Stravinsky et, je dirais ici avant tout, un souvenir de Solferino. On ignore s'il avait une certaine affinité à la Croix-Rouge ou au personnage d'Henri Dunant. On ignore de même le motif qui poussait Hürlimann à éditer une nouvelle traduction du souvenir. Dans la préface du livre, il dit « Es schien uns eine Pflicht, dieses auch heute noch packende Dokument, dessen unzulängliche bisherige deutsche Ausgabe längst nicht mehr erhältlich ist,
durch eine neue Übersetzung dem deutschen Sprachkreis wieder zugänglich zu machen. À peu près, nous nous voyons obligés de rendre accessible cet ouvrage toujours passionnant à l'espace germanophone, particulièrement parce que son ancienne traduction insuffisante n'est plus disponible depuis longtemps. Cette explication ne convaincra pas parce que l'insuffisance de la traduction précédente reste à vérifier et c'est seulement 2 ans avant la parution chez Atlantis que la Croix-Rouge suisse avait réédité cette vieille traduction à Soleure en 1940. Elle est donc loin d'être indisponible. Si l'histoire finissait ici, elle était un intéressant regard de côté sur le traducteur Richard Tungel qui a traduit quelques livres mais resté inconnu. Mais l'histoire continue. Après la guerre, Richard Tungel rentra à Hambourg. Il devient journaliste, mais pas un journaliste quelconque. Hambourg faisait partie de la zone d'occupation anglaise. En 1946, les Anglais accordèrent la licence d'éditer un journal. C'était l'heure de naissance du plus sérieux journal de l'Allemagne, de l'hebdomadaire Die Zeit. Et Richard Tungel en était, pour 9 années, son premier rédacteur en chef. Richard Tungel compte donc parmi les plus célèbres dans le journalisme allemand, sans que les journalistes le connaissent comme traducteur du chef-d'œuvre de la Croix-Rouge. Dans la Croix-Rouge, on ne connaît guère son nom comme traducteur, sans parler de son rôle clé dans la reconstruction de la presse allemande après la guerre. Chose qui nous doit tourmenter, ni le nécrologue dans Die Zeit, ni l'article dédié à Richard Tungel dans l'encyclopédie de Wikipédia, ne mentionnent la traduction du souvenir réalisé par le futur chef de Die Zeit. J'aimerais terminer avec 2 formes d'accueil assez récentes. Premièrement, l'accueil dans la littérature. Rolf Hochhuth, né en 1931, est un des représentants les plus éminents de la littérature contemporaine allemande et un des initiateurs du théâtre documentaire. Dans un de ses ouvrages mineurs, il fait allusion aux souvenirs de Solferino. En 1996, est paru sous le titre Efisnacht, un monologue abondant. Dans ce monologue, l'infirmière Elisabeth von Ardenne, grand-mère du physicien allemand Manfred von Ardenne, et modèle de Effi Briest dans le roman de Théodore Fontane, cette Elisabeth von Ardenne, en veillant un jeune soldat blessé, raconte sa longue vie et je me permets de citer dans la Suisse plurilingue le texte original en allemand. Elisabeth von Ardenne dit dans ce monologue: Hatte ich eine Ahnung? Nein, hatte keine Ahnung, dem bedeutendsten Menschen zu begegnen, den ich je im Leben traf, als Henri Dunant plötzlich vor mir stand. Dem ich später die Kleider ausbesserte, die einst vornehm, nun fast zerschlissen waren. Der Initiator des Roten Kreuzes, jetzt Insasse eines Greisenasyls für Arme in Heiden überm Bodensee. Gründer, Visionär vom Range des Moses. Zwar zuletzt noch Nobelpreisträger, doch inmitten der mittelmäßigen, der ewigen Bünzlis, wie die Schweizer ihre Spießer nennen, nur belächelt, ja verachtet als einst steinreicher Kaufmann, der wie ein Evangelist all seine Habe der Idee dem Roten Kreuz geopfert. Doch dauerte es 33 Jahre, bevor sein Schlachtfeldbericht von Solferino aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt wird. So wenig Interesse nimmt Europa, das seit Jahrzehnten mörderische Kriege ausgekämpft, an der Forderung, Verwundete, Gefangene zu schützen. Plötzlich sah er mir zum Fenster hinein, in Heiden, der Schneeweiß-Langbärtige, mit dem schwarzen Samtkäppchen. Dans ce monologue, Elisabeth von Ardenne, elle apostrophe donc Henri Dunant comme l'homme le plus important qu'elle ait jamais rencontré dans sa vie. Il est vrai, Hochhuth commet l'erreur chronologique en prétendant qu'un souvenir de Solferino n'ait été traduit en allemand que 30 ans après sa parution. L'erreur s'explique facilement du malentendu que Hochhuth prend la 2e édition bernoise de 1895 de la traduction de Bâle pour la 1re. Néanmoins, c'est Rolf Hochhuth qui fait entrer du nom et son souvenir de Solferino dans la littérature allemande. Et un dernier exemple d'accueil du livre. Pour l'instant, la dernière étape de l'accueil du Solferino dans le monde germanophone est marquée par une production qui exploite le progrès technique, c'est-à-dire la marche triomphale du livre audio qui commence au début des années 1990. En 2005, le comité régional de Flemming-Spreewald de la Croix-Rouge, c'est mon comité, a réalisé l'idée de diffuser le souvenir de Solferino à l'aide de ce nouveau média. Steffen Reiche, à l'époque ministre de l'Éducation et des Recherches scientifiques de Land Brandenburg, et après cela député du Bundestag, a récité de manière très empathique les parties centrales de l'œuvre de Dunant, c'est-à-dire environ la moitié du livre. On a produit à l'époque un tirage d'environ 4000 exemplaires. La plupart est vendue, il reste quelques peu d'exemplaires qui se trouvent à côté et vous avez la chance rarissime d'acquérir un tel exemplaire. Et nous sommes à la veille de l'an 2013 où nous célébrerons le 150e anniversaire de la Croix-Rouge. À cette occasion, le même comité a produit une CD avec 10 chansons de différents pays, chansons modernes, chansons historiques de différents pays, en différentes langues. Les chansons ont été interprétées par un corps d'étudiants de mon université. Cette CD aussi se trouve à côté. Et avec ça, je vais terminer et je vous remercie de votre attention.